Voici le premier sphinx que nous rencontrons dans cette exposition. Et alors c'est vous, Frédéric Mougenot, qui allez nous éclairer sur cette figure emblématique de l'Égypte antique. Est-ce que le sphinx, en général, nous a livré tous ses secrets ?
Alors, le sphinx, c'est une représentation du pharaon ou d'une divinité qui allie donc le corps d'un lion et la tête, ici en l'occurrence, d'un être humain. Et c'est toujours la tête qui garde l'identité de l'être ou de la personne qui est représentée. Ici, c'est un pharaon qu'on identifie par sa couronne, le némès, cette couronne en tissu. Et le corps du lion est comme une métaphore qui attribue au pharaon la puissance du lion, sa férocité, sa puissance au combat.
Et c'est une figure qu'on retrouve dans tout l'art égyptien.
Oui, elle apparaît très tôt dans l'histoire de l'art égyptien, au 27e siècle avant notre ère. Et elle dure jusqu'au 1er siècle de notre ère. Ce qui est absolument incroyable, cette durabilité des modes de représentation des pharaons qui n'évoluent pas beaucoup pendant tous ces millénaires.
Alors plus précisément, sous les yeux, on a Nectanébo, qui lui a vécu 4 siècles avant notre ère. Si on approche de la vitrine et qu'on observe le socle de la statue, on découvre une inscription. Que nous dit-elle ?
Alors cette inscription donne les 5 noms du pharaon Nectanébo. Lorsqu'un pharaon monte sur le trône, il a déjà son nom de naissance, celui que ses parents lui ont donné. En l'occurrence ici, c'est Nectanébo. Et les prêtres qui le couronnent lui donnent en plus 4 noms qui constituent une sorte de programme religieux et politique, puisque c'est la même chose dans l'Égypte ancienne. 2 de ces noms sont inscrits dans un cartouche, et l'un de ces 2 noms est le nom de couronnement qu'il prend donc au moment où il monte sur le trône. Et bien souvent, il l'emprunte à un pharaon du passé. En choisissant le même nom de couronnement, il annonce aux dieux, à l'aristocratie et au peuple qu'il veut être un aussi grand pharaon que lui.